Bonjour à tous. Alors, nous avons un petit peu changé nos habitudes ce matin pour nous mettre vraiment au service de Dieu et de sa parole. Je passe un petit peu plus tôt pour que nous ayons un temps de louange tous ensemble comme une réponse à ce que nous allons apprendre, redécouvrir de l'évangile, de la croix de Dieu ce matin ensemble. Et je vais donc commencer la prédication. Et c'est Ricardo qui se chargera de la conclusion pour en même temps coordonner ce temps que nous aurons donc de louanges en réponse à ce que nous allons voir. Alors, vous le savez, nous sommes dans une série de prédications sur le livre d'Ésaïe. Nous avons couvert les quatre chants du serviteur. Mais si vous êtes là, que vous n'avez pas suivi les précédentes prédications, je vous resitue un petit peu le contexte général. Alors, le livre d'Ésaïe a été écrit donc par le prophète Ésaïe 8 siècles avant la venue de Jésus. Ce livre, si on l'organise d'une façon la plus simple possible, on peut y voir 3 grandes parties. La première partie, c'est les chapitres 1 à 35, et c'est une série de jugements universels donc, que Dieu adresse à son peuple, mais aussi à toutes les nations. Au milieu de ces jugements, il y a quelques bribes d'espoir. Mais la thématique est vraiment celle du jugement et de la colère de Dieu contre l'homme qui se rebelle contre lui, qui est idolâtre et qui ne veut pas écouter son Dieu. Au milieu, dans 3 chapitres, nous avons un bref passage historique qui nous raconte le règne du roi Ézéchias et la menace babylonienne. C'était ce grand peuple qui risquait de venir déporter, tenir captif le peuple d'Israël. Donc la manifestation concrète, historique, des menaces que Dieu a dit dans les chapitres précédents. Et puis, du chapitre 40 à 66, la dernière partie du livre, la grande thématique du prophète, c'est le salut universel. Jugement universel, salut universel. Et dans cette thématique se situe une présentation que fait l'Éternel, lui, directement de son serviteur, qui va être celui qui va instaurer, qui va préparer, qui va mettre en place ce salut universel. Et donc, ce sont ces 4 chants du serviteur que nous retrouvons. Donc, le premier chant est dans le chapitre 42. Sa thématique, c'est vraiment le serviteur envoyé par l'Éternel vers les nations. Le deuxième chant, c'est la thématique du serviteur qui est rejeté par son peuple. Le troisième, lui, c'est Dieu qui glorifie son serviteur. C'était Stéphane la semaine dernière. Et puis, le dernier chant, c'est sur la thématique d'un serviteur qui est brisé. Ces 4 chants forment l'ossature de l'Évangile. Quand on les met l'un bout à l'autre, on regarde que finalement, ça nous donne presque de façon très précise le plan de l'Évangile. L'incarnation de Jésus-Christ, son baptême, son procès et enfin la croix. 4 moments clés où ces chants sont repris dans le Nouveau Testament où il y a des allusions. Le dernier chant, le 4e, celui que nous allons voir aujourd'hui, commence comme le premier. « Voici mon serviteur ». Nous allons le découvrir ensemble. Il reprend exactement là où Dieu avait commencé sa présentation. Et il va recouvrir les 3 premiers thèmes qu'on a vus dans les premiers chants et va un petit peu lier la gerbe et brosser un portrait complet de ce serviteur. Et avant d'aller plus loin, je voudrais souligner l'importance de ce chant, de ce texte, en particulier dans la Bible. On appelle volontiers Ésaïe le 5e évangile. C'est Charlie, je crois, qui nous le rappelait dans sa présentation du premier chant. J'ai eu la chance de pouvoir étudier le livre d'Ésaïe dans mon cursus d'études à l'Institut biblique de Genève. Et ça a été pour moi la plus grande révélation, c'est de constater que dans le livre d'Ésaïe, nous connaissons tout ce que nous devons savoir sur le serviteur. Finalement, les récits historiques des évangiles nous apprennent que très peu de choses en plus que le livre d'Ésaïe. Le quatrième chant du serviteur est le point culminant de toute cette partie du salut universel, donc cette dernière partie du livre d'Ésaïe. Tous les récits vont et viennent à ce texte. C'est aussi le couronnement de la révélation de la croix, de la résurrection dans l'Ancien Testament. C'est l'un des passages aussi les plus cités et les plus utilisés par les apôtres dans le Nouveau Testament pour étayer leur théologie, leur présentation de Jésus-Christ. Mais aussi, vous allez le voir, c'est l'un des passages les plus émouvants de toute la Bible. Et je vous confesse que pour moi, la préparation a été difficile parce qu'à chaque fois que je devais me plonger dans ce texte, j'étais personnellement totalement chamboulé parce que j'y redécouvrais encore et encore. Il y a une puissance émotionnelle, comme on dit, dans ce texte-là, c'est très dramatique et ça nous saisit au plus profond de nous. Pas étonnant que ce texte, précisément, ait amené des centaines de milliers de personnes dans l'histoire de l'Église à la foi en Jésus-Christ. La première d'entre elles est cet eunuque qui a rencontré Philippe, l'évangéliste, en acte 8, et l'évangéliste, en se servant de ce passage, lui a amené à découvrir Jésus-Christ. Et c'est que le début de l'utilisation qu'a fait Dieu de ce texte pour amener des milliers d'âmes à lui. Il y a 2 ans, j'ai été invité dans une église pour une prédication. À la fin de mon message, une jeune fille est venue me voir accompagnée de son amie qui était pour la première fois dans un culte chrétien, dans une église évangélique, et qui entendait pour la première fois une prédication sur la Bible. Et cette jeune fille avait vraiment de grandes questions à propos de Dieu. Elle était d'une famille qui avait un arrière-plan copte, égyptien, et une autre partie de sa famille, elle, était musulmane. Elle me dit, d'une certaine manière, j'ai toujours grandi entre ces deux cultures, entre le Coran et la Bible, et j'ai l'impression, au final, que le Dieu du Coran et le Dieu de la Bible, c'est exactement pareil. Pourquoi est-ce qu'on ferait une si grande différence? Pourquoi vous dites qu'il n'y a que celui qui est présenté dans la Bible qui sauve? Alors, nous avons discuté de midi à 15h30 ensemble, et ça a été un grand débat de défense, d'arguments, etc. Nous avons beaucoup discuté. Et puis, je me suis souvenu d'une chose et je me suis dit, mais finalement, j'aurais dû commencer par là. Blaise Pascal, vous savez, ce philosophe et scientifique chrétien du siècle des Lumières, disait que les prophéties à propos de Jésus-Christ sont la plus grande preuve de la crédibilité du récit de la Bible et de la véracité de l'Évangile. Alors, j'ai pris le texte d'Ésaïe 53. Et je l'ai lu avec elle, et simplement je lui dis, à ton avis, de qui parle ce texte? Elle me dit, c'est évident, ça parle de Jésus. Je dis, oui, tu sais quand est-ce qu'il a été écrit? Elle me dit, non, je ne sais pas. Eh bien, 8 siècles avant Jésus-Christ. Et je vous promets, j'ai vu ses yeux s'embuer, et ça l'a vraiment touché de réaliser que ce Christ, finalement, n'avait rien à voir avec toutes les autres divinités. Car on ne connaît aucun Dieu qui se mouille autant, plutôt qui se sacrifie à ce point pour sauver ses créatures rebelles. Certes, l'Évangile est le message le plus exclusif qui existe sur Terre. Seul Christ sauve. Mais c'est le message le plus inclusif dans le sens qu'il est universel et qu'il appelle tous les hommes, sans aucune distinction de race, d'origine, de langue, de culture, de qualité, etc. C'est un message adressé à tous. Alors j'espère que vous avez envie maintenant que l'on creuse ensemble ce texte et de le redécouvrir à nouveau. On est parti? Alors, voici le plan que l'on peut faire de ce quatrième chant. Je l'ai découpé en 4 parties qu'on peut reconnaître assez facilement. La première est la mission de ce serviteur qui nous est présenté par Dieu lui-même. Ensuite, le prophète Ésaïe reprend la parole et décrit ce qu'a représenté les souffrances de l'incarnation de la vie de ce serviteur au milieu de son peuple. Et puis, nous irons jusqu'au moment de la passion de ce serviteur, de son jugement, de son sacrifice à la croix. Et puis le chant finit, et c'est Ricardo qui nous conduira dans ce dernier point, sur la résurrection de ce serviteur. Alors, rentrons sans plus attendre dans le texte, et je vais lire donc chaque partie, et je ferai des commentaires sur chacune des parties. Voici mon serviteur. Dieu présente son serviteur. Mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il purifiera par l'aspersion beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Voici mon serviteur. On le voit, c'est Dieu qui préside la venue de son serviteur. C'est lui qui l'introduit et il dit qu'il n'y a aucun suspense. Son serviteur sera victorieux, il va triompher et il sera élevé au-dessus de tous. Mais Dieu présente aussi quel est le chemin de cette victoire. Ce sera sa destruction. Son serviteur sera brisé, va souffrir énormément. Sa destruction sera notre restauration. Regardez les versets 14 et 15. L'Éternel explique que son serviteur va tellement souffrir qu'il ne ressemblera même plus à un homme. Son aspect sera monstrueux, tellement il aura été défiguré par les souffrances. Est-ce que nous pouvons imaginer cela? Peut-être avez-vous vu le film La Passion du Christ de Mel Gibson, un film d'une violence extraordinaire qui présente les derniers temps de la vie de Jésus, son procès et la crucifixion. C'est un film dont les images sont insoutenables et qui est en gros décalage par rapport à tous les autres films qui ont été faits sur les souffrances de Jésus-Christ. Et l'auteur a voulu vraiment insister sur les souffrances physiques que Christ a vécues. Et bien que ce soit choquant, je pense que visuellement, le Christ présenté dans ce film est celui qui est le plus proche de la réalité. Ces souffrances physiques ne sont que la partie visible et la partie la moins grave de ces souffrances. Dans l'histoire du christianisme, de nombreuses personnes vont souffrir de la même punition que Christ a vécue. L'apôtre Pierre lui-même sera crucifié à l'envers à Rome. Et on connaît l'histoire de nombreux martyrs qui ont souffert aussi énormément, peut-être même plus physiquement que Jésus-Christ, bien que ce soit déjà extraordinaire. Mais ces souffrances physiques sont le témoignage, l'image d'une souffrance bien plus grande encore que nous allons découvrir. Et l'Éternel établit le lien entre ses souffrances et sa victoire. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va purifier, sous-entendu par son sang, par l'aspersion de son sang, une multitude, de nombreuses personnes. Certaines versions, peut-être que vous avez dans votre Bible, dit « il fera la joie de beaucoup de nations ». Certains ont ça peut-être. Littéralement, le mot peut signifier les deux choses. La joie et l'aspersion, c'est le même mot. Mais dans le contexte, il purifie par son sang beaucoup de nations, ce qui les réjouit parce qu'elles sont sauvées. Le thème du sacrifice est très présent tout au long du chant. Au verset 7, Jésus est comparé encore à un agneau qu'on mène à la boucherie. Au verset 11, il est aussi comparé au sacrifice de culpabilité. La thématique est vraiment celle de l'aspersion, celle du sacrifice. Et l'aspersion, vous savez, c'était les chefs religieux trempaient des branches dans du sang d'un agneau sacrifié ou d'une bête sacrifiée et ils l'aspergeaient sur l'autel en signe de purification et sur les outils, tous les ustensiles qu'ils utilisaient pour le culte. Le sang purifie. Et donc, l'Éternel dit que son serviteur, par son sang, va purifier beaucoup de personnes. Mais il dit aussi deux autres choses. Il dit, dans le verset 15, qu'il aura une autorité suprême. Dans l'Antiquité, souvent, les rois avaient été reconnus comme ayant un droit divin. En France aussi, ça a été le cas, vous savez, jusqu'à Louis XIV, où le roi était le dieu vivant, hein, le roi soleil. Il était comparé à un dieu. C'était la même chose à l'époque. Et l'Éternel dit que son serviteur sera au-dessus de ses rois. Ce sera le roi des rois. Mais il dit une autre chose. Il dit, regardez la fin du verset 15, hein, « Ils verront et comprendront. Son serviteur sera la révélation ultime et il sera aussi la clé de compréhension du plan de Dieu. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Christ n'est pas simplement mort pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et ces prophéties qui annoncent sa mort et sa résurrection sont là pour attester, pour révéler pleinement, donner sens et en même temps valider totalement pour nous notre espérance. Ce n'est pas juste un illuminé qui un jour a voulu mourir pour d'autres personnes. Non, c'est le serviteur de l'Éternel. L'Éternel l'a annoncé. Lui viendra pour mourir pour nos péchés. Le cadre est posé. Sa souffrance n'aura d'égal que son triomphe. Alors, quelle va être la cause de sa souffrance ? Pourquoi va-t-il souffrir comme ça ? Et la suite du chant nous fait cette révélation fracassante. Nous sommes la cause de sa souffrance. Et ses souffrances vont commencer dès son incarnation. Qui a cru ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Christ est le serviteur rejeté et brisé. Vous remarquerez que là, Ésaïe reprend la parole et il s'identifie totalement à son peuple. Et il parle de ce serviteur comme étant le bras de l'Éternel. Le bras de l'Éternel, c'est synonyme de force. Si je vous parle du bras de Sylvester Stallone, vous pensez à la force de Sylvester Stallone. Si je vous parle du bras de l'Éternel, vous pensez à la force de l'Éternel. Le bras de l'Éternel, c'est ce bras qui vient et qui intervient. Et on pourra attendre que le bras de l'Éternel vienne briser, vienne détruire, vienne punir, comme c'était annoncé. Mais non, l'Éternel permet à ses ennemis de les détruire. Le bras de l'Éternel, c'est Dieu qui, par Christ, tend la main à ceux qui l'ont lâché pour les sauver. Et le prophète pose cette question. Qui a cru à ce message ? Qui a reconnu ? Ésaïe constate l'abîme qui sépare l'importance de la venue du serviteur avec la compréhension et l'opinion des hommes à son sujet. Il est effaré de voir la différence qu'il peut y avoir. Et je trouve que c'est intéressant de nous pour voir comment l'apôtre Paul utilise cette citation d'Ésaïe dans la défense de son ministère. Je vous cite en Romains 10, au verset 16, il dit « Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, et là il cite, « Seigneur, qui a cru à ce que nous avons fait entendre ?» Et Paul continue « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Il tire de ce texte-là, de l'introduction de ce chant du serviteur, pour lui, le plus grand motif qu'il a de prêcher Christ. Pourquoi fait-il cela ? Paul constate que cette église de Rome a un petit peu de mal avec sa vision de l'évangélisation. C'est un des problèmes. Certains juifs n'ont pas à cœur l'évangélisation des non-juifs. Et les juifs et les non-juifs ont une querelle aussi entre eux. Et Paul veut les encourager à venir avec lui aussi en mission. Paul veut que les Romains comprennent que c'est la nature même de l'évangile qui doit les encourager à évangéliser avec lui. Et c'est comme ça qu'il justifie son propre ministère, parce que l'évangile est universel, qu'il a adressé à tout le monde. Il ne veut pas que l'Église de Rome rejette l'annonce du message de la croix, comme les Juifs avaient rejeté Jésus. Est-ce que vous allez faire pareil ? Pourquoi ? Parce que l'homme est sauvé par la foi. Et c'est tout le thème du début du chapitre 10 de Romains. Il ne peut pas croire. L'homme ne peut pas croire, ne peut pas être sauvé s'il n'entend pas l'évangile. C'est un message universel. Et ce que dit Ésaïe, c'est que universellement, on ne l'a pas reconnu. Nous ne l'avons pas reconnu et il s'inclut dedans. Regardez les images qu'utilise Ésaïe. Il dit que Jésus s'est élevé devant lui comme une faible plante, qu'il n'avait rien pour attirer nos regards. Christ était un libérateur qui n'était pas marqué par les critères des canons de beauté de son siècle. Il ne veut pas dire non plus qu'il était moche, parce qu'il n'y a rien de mal à être beau. Hein ? Ce que Ésaïe dit, c'est que nos critères humains pour reconnaître quelqu'un qui en jette, on pourrait dire aujourd'hui, qui a la classe, les jeunes disent qu'il a le swag. Oui, il n'y a que ce côté-là qui rigole. Nos critères ne collaient pas. Cette description est souvent rattachée dans la Bible, vous savez, au roi Saül, 3 siècles auparavant, le prédécesseur de David, qui lui était très beau. Et le peuple a vu ce roi beau et on dit, bah, il est beau, donc ça va être un bon roi. Ce qui est sûr, c'est que du point de vue de nos valeurs strictement humaines, rien de Jésus-Christ ne peut susciter un quelconque intérêt pour nous. Et pourquoi un tel rejet ? Le texte nous le dit. Parce qu'il s'est élevé comme une faible plante devant lui. C'est ce devant lui qui a provoqué le rejet. Je fais un contraste avec le verset 6 qui n'est pas affiché là, mais je vous le cite. Regardez comme il décrit notre attitude à nous. Nous étions errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Suivre sa propre voie, c'est l'une des définitions bibliques de la rébellion du péché. L'homme choisit de vivre comme lui veut et il rejette de vivre de la manière dont son Dieu le veut. Ésaïe, au chapitre 43, verset 7, dit que nous avons été créés pour la gloire de Dieu, vivre pour sa gloire. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créés, pour ma gloire, dit l'Éternel, que j'ai formé et que j'ai fait. Nous sommes créés pour sa gloire. Christ s'est élevé devant lui, parfaitement pour sa gloire. Alors que les hommes, eux, rejettent ça et veulent vivre leur propre voie. Et le texte dit chacun suivait sa propre voie, c'est-à-dire tous. Et en réalité, pourquoi Christ a été rejeté ? Eh bien parce que sa vie était un témoignage à charge contre nous. Par son attitude de l'argent, il a révélé notre matérialisme. Par sa piété et sa dépendance de Dieu, il a révélé notre hypocrisie religieuse. Par son humilité, notre orgueil. Par son obéissance, notre rébellion. Par son service, notre égoïsme. Par son amour, notre cœur desséché. Et Christ était si humble que les siens ne lui ont reconnu aucun charisme. Et quelle est la réaction de l'homme quand on le perce à jour, quand on lui montre la réalité de son cœur ? Eh bien, nous l'avons méprisé, abandonné, dédaigné. Christ a souffert toute sa vie du rejet des hommes. Au début, il y avait les foules, puis 70, puis 12, puis 3. Et à la fin, il était seul, rejeté. Et cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération. Qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Et il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Dans quelles circonstances? J'ai dit en introduction que Jésus n'était pas mort simplement pour nos péchés, mais mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il en est la clé de compréhension. Regardez ce que dit Jésus à propos de ce chant et à propos de ses souffrances en Luc 22, 37, je vous cite. « Car je vous le dis, il est près de la croix. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. » Et là, il cite Ésaïe. « Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. » Jésus cite explicitement le verset 10. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a été mis au rang des malfaiteurs. C'est une dimension légal. Ça veut dire qu'il a été jugé comme un malfaiteur. Christ n'a pas été tué au coin d'une ruelle, ni lors d'une émeute. Plusieurs fois, on a essayé d'atteindre à sa vie, mais Dieu ne voulait pas ce cadre-là. Il voulait qu'il soit jugé et mis au rang des malfaiteurs. C'est très important de comprendre ce contexte-là pour comprendre le sens de la croix. Et Jean Calvin fait une constatation que je trouve remarquable. Parce qu'il est conduit devant un tribunal comme un criminel, qu'un semblant de procédure de justice se déroule, que des témoins sont appelés et qu'il est condamné par un juge en fonction. Pourquoi? Pour s'acquitter de la peine que méritaient les pécheurs et la prendre à leur place. Il n'a pas souffert à la vérité pour la justice, mais pour le péché. Ensuite, nous comprenons qu'il a été absous par la bouche même de celui qu'il l'a condamné. La crucifixion était un événement public. Dieu l'a voulu ainsi parce que le message de la croix est universel, il est public et il est officiel. Il a un caractère pénal. Ce sont les circonstances pénales de la mort de Christ, cette parodie de procès qu'il faut bien comprendre. Il y a une notion derrière théologique qui est très importante pour nous. C'est ce qu'on appelle la substitution pénale. C'est un gros mot. La substitution pénale, c'est l'aspect central de l'Évangile. Et je crois que chaque chrétien doit connaître et comprendre ce qu'il y a, quels sont les enjeux de cette substitution pénale. Je vais l'expliquer rapidement. Elle était au cœur du sacrifice, du système de sacrifice dans l'Ancien Testament. Par exemple, le chef religieux rentrait dans le temple chaque année avec le sang d'un animal qui avait été sacrifié, qui était sans défaut, afin de le verser dans le lieu très saint, le lieu qui symbolisait la présence de Dieu sur le tabernacle, cette grande boîte qui renfermait les tables de la loi. Et il versait le sang de cet animal offert en sacrifice dessus pour que Dieu suspende sa colère et suspendre son jugement. La première partie du livre, je vous l'ai dit, est l'énumération des jugements de Dieu, la manifestation de sa colère qui s'étend sur toute la terre, qui est adressée à toutes les nations, le peuple juif et tous les autres. Par la bouche du prophète, pendant 39 chapitres, Dieu promet le jugement. Il promet la destruction, l'anéantissement, mais il la tient en suspens. Il promet, mais ça ne vient pas. Vous savez, comme quand il y a l'orage et on sent que ça va péter, mais ça ne vient pas, mais c'est sombre. Et au chapitre 53, on voit l'Éternel déverser son jugement contre son serviteur. Envers les hommes, Dieu a retenu ses coups. Et nous ne sommes même pas capables de recevoir toute sa colère. Envers les hommes, Dieu a retenu ses coups. Avec son serviteur, il ne les retiendra pas. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. La volonté du Père a été de le briser, lui, non pas à cause de ses péchés, parce que lui n'a jamais péché, mais parce qu'il a porté nos péchés. Dieu ne condamne jamais deux fois pour le même péché. Là où Christ a été condamné, je ne le suis pas. Là où Christ a été condamné, je ne le suis pas si je demande à Dieu d'imputer à Christ mon péché. Et c'est le message central, c'est l'expression principale de la grâce. Et c'est pour ça que Dieu nous demande d'abandonner nos mains entre les mains de Christ pour être sauvés. Voilà la substitution pénale. Substitution parce qu'il prend notre place. Pénale parce qu'il subit la peine légale devant Dieu. Il prend sur lui le jugement et la condamnation pour le péché décrété par Dieu contre nous. Et la condamnation du péché, c'est la mort. Dieu l'avait dit dès Genèse chapitre 2. Dieu le Père impute à Christ nos péchés. Wayne Grudem dit, « Il a considéré qu'ils appartiennent à Christ et que puisque Dieu est le juge suprême et celui qui définit ce qui fait tenir vrai dans l'univers, quand il a considéré nos péchés comme appartenant au Christ, ils appartiennent réellement au Christ. » C'est pour cela que jamais personne sur la face de la terre n'a autant souffert que Jésus. Personne n'a souffert comme Jésus-Christ. Vous êtes-vous déjà posé cette question? Que s'est-il passé pendant ces 3 heures de ténèbres quand Christ était sur la croix? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 heures de ténèbres et de silence? Dieu a déversé sa colère contre nous sur lui parce qu'il portait nos péchés. Et par son sang versé pour nos péchés sur la croix, pendant ces 3 heures, il scellait la nouvelle alliance qui nous accorde le pardon pour nos péchés. Est-ce que vous saisissez ce que cela implique? Ça signifie que celui qui mérite la mort sur la croix. Normalement, c'est moi. Je mérite la mort sur la croix. Mais c'est lui qui a subi les souffrances à ma place. Et si on aime se rappeler que Jésus est mort pour nous, il ne faut surtout pas oublier que Jésus est mort aussi à cause de nous. Celui qui aurait dû être châtié, c'est moi. Les transgressions sont bien les miennes, mais les meurtrissures sont les siennes. Chacun de mes péchés a conduit Jésus sur la croix. Je suis responsable de sa mort à la croix. voudrais vous partager une histoire que raconte Becky Pieper, qui a travaillé pendant de nombreuses années avec les GBU, qui est auteur et qui fait beaucoup d'évangélisation. À la fin d'une de ses conférences, elle signait un de ses livres, elle faisait des dédicaces, et une jeune fille s'est approchée d'elle en larmes. Elle pleurait, inconsolable. Becky Pieper s'est dit qu'elle ne pouvait pas continuer à faire ses dédicaces, et du coup, elle est allée rejoindre cette jeune fille, elle s'est mise à part dans une pièce avec elle pour discuter. Et cette jeune fille a pu vider son sac. Elle lui a dit qu'elle était fiancée avec un jeune homme chrétien, que les deux étaient très engagés dans leur église, qu'ils aimaient servir l'église et qu'ils étaient responsables du groupe de jeunes. Alors qu'ils étaient fiancés et qu'ils avaient prévu de se marier, un jour ils ont craqué, ils ont couché ensemble. Et elle est tombée enceinte. Comment expliquer à l'église alors qu'elle était responsable qu'elle était enceinte? Qu'allaient dire les gens? Quel contre-témoignage? Alors, cette jeune fille a décidé d'avorter et de garder ça secret. Elle a dit « ça a été le pire jour de toute ma vie ». Et vous savez quel était le deuxième pire jour de toute ma vie? C'était le jour de mon mariage, où tout le monde nous applaudissait. Et alors que je m'approchais devant l'autel, c'était le deuxième jour le pire de ma vie. Et j'aurais voulu mourir ce jour-là. Mon mari, lui, a... Depuis s'est relevé, il a expérimenté le pardon de Dieu, mais moi, je n'y arrive pas. Je ne comprends pas. Mon péché est impardonnable. Becky Pieper a répondu à cette jeune fille : ce que vous ignorez, c'est que vous avez fait quelque chose de bien pire. Vous avez commis un péché bien plus grave. Vous avez tué Jésus-Christ par votre péché. Et c'est de comprendre ça qui a libéré cette jeune fille d'une culpabilité qu'elle portait depuis tant d'années. Cette vérité l'a libérée. La croix nous montre tous comme étant ceux qui ont crucifié Jésus. Tous, chacun d'entre nous. Pensez-vous qu'il y ait un seul de nos péchés qui ne l'ait pas conduit à la croix? Le réformateur Martin Luther disait que nous portons tous dans nos poches les clous de la croix. Et croyez-moi, si vous et moi avions vécu au temps de la crucifixion de Jésus, je crois que moi le premier, j'aurais été dans la foule parmi ceux qui criaient de le crucifier. Jonathan Edwards disait « Notre seule contribution à notre salut est notre péché qui l'a rendu nécessaire. » Et si la croix met en lumière mon péché, si elle le met en lumière et qu'elle expose sans aucun maquillage, c'est aussi pour montrer que je ne dois avoir aucun doute que je suis bel et bien pardonné, lavé et purifié de ce péché. Comme le dit Becky Pieper, pour savoir si j'étais vraiment accepté, il faut savoir que j'étais accepté à cause du pire. Par mon péché, je suis responsable de sa mort et c'est précisément sa mort à la croix qui me guérit de mon péché, qui me purifie. C'est ce que dira Paul quand il dira aux Corinthiens dans sa deuxième épître, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Au Galates, il dira « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Et Pierre dira lui « Celui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui, insulté, ne rendait pas les insultes, souffrant, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui, a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont les meurtrissures vous a guéri, il cite Ésaïe. Vous qui étiez comme des brebis errantes, il cite Ésaïe. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. » C'est une implication très concrète pour nous. Je ne peux pas comprendre la gravité de mon péché si je ne comprends pas la gravité des souffrances de Christ à la croix. pour moi. Vous voulez rester loin du péché ? Vous voulez vous détourner ? Marcher dans la victoire, marcher dans la sainteté, renouveler chaque jour votre compréhension du prix de sa grâce. Parce qu'alors, nous ne voudrons pas qu'il soit mort pour le prochain péché que nous allons commettre. Et c'est seulement en regardant à la croix que nous pouvons vivre la guérison de l'âme, la paix. C'est alors que je reconnais ma culpabilité qu'elle m'est enlevée. Et nous arrivons à la résurrection du serviteur, cette dernière partie qui est le triomphe du serviteur, sa gloire, après son œuvre à la croix, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai, c'est l'Éternel qui parle de nouveau, je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour le coupable. Phrase étrange, il livre sa vie en sacrifice, il meurt et il prolonge ses jours. Ésaïe introduit là la vérité de la résurrection du serviteur. Pourquoi cette résurrection ? Christ n'a pas péché. Il a porté en revanche notre péché. Et comme je l'ai dit, on ne peut dissocier la mort du péché. La mort est la condamnation du péché. Christ a vaincu le péché et la mort. Si Christ n'était pas ressuscité, c'est qu'il était resté dans la tombe mort, y compris à cause de ses propres péchés. Mais Christ n'est pas mort pour ses péchés. Il est mort pour les nôtres. Il ne pouvait donc pas rester mort. Et c'est pourquoi il est ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, nous ne sommes pas sauvés. Et notre foi est vaine. C'est l'apôtre Paul qui le dit. La démonstration de la toute-puissance de Jésus s'est démontrée précisément dans sa faiblesse sur la croix. Car c'est en mourant qu'il a vaincu le péché. Et c'est ça la divine ironie. Sa victoire réside dans sa destruction et sa défaite. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, dont les dispositions nous étaient contraires. Il a supprimé, en le clouant à la croix, il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Je vous invite maintenant, avant que Ricardo reprenne la parole, que nous chantions ensemble le chant 194, Merci pour la croix, et que notre chant en tant qu'enfant de Dieu, puisse être notre réponse à la croix.